phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il est 19h02. Méga Combi a fini tellement à l'heure que c'est déjà l'heure du Canu Info. Avec ce soir.
Alors, nous allons parler de la loi travail et de l'AG de Lyon qui a voté l'occupation à Bron de la grève dans les mines en Chine du Ankara, où il y a eu des attentats, de la grève de la faim à Calais, et une petite anecdote sur les vieux piétons aux Pays-Bas.
Et puis après tout ça, on aura la rubrique Le fil d'Ariane, les avocates qui viennent de nous faire un petit point de vulgarisation, et ce soir vous allez parler de...
Des mineurs isolés étrangers.
Très bien. Eh ben... Ah non, pardon, ça fait très longtemps que je me suis plus retrouvé à faire la technique. Allez, vas-y.
Oh bah t'as été chiche en musique.
Ouais.
Alors, les étudiants de Lyon 2 qui étaient réunis hier en Assemblée Générale à plus de 300 personnes dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail, ont voté la grève et donc ils ont décidé l'occupation de l'amphi B sur le campus de Bron comme lieu d'organisation permanente de la mobilisation. Et donc ils appellent les étudiants et étudiantes à les rejoindre nombreuses pour participer à ce mouvement et donc occuper l'amphi B. Et donc il y a un appel à la manifestation de demain, donc à 12h, pour un pique-nique et un point d'info donc autour de conseils en manif et... des prises de parole contre la loi travail et un départ en cortège à 13h avec comme mot d'ordre apprentis, lycéennes, étudiantes, chômeuses, travailleuses, retraitées, avec ou sans papier, c'est tout ensemble qu'on va gagner. Et donc si vous souhaitez être inscrit sur la mailing list de l'Assemblée, il faut envoyer un mail à assembledelyon@gmail.com. Et je vais vous lire un petit extrait de leur tract appelant à la manif. Ce projet de loi s'inscrit dans la poursuite des précédentes réformes du gouvernement, attaque de nos conditions de vie de vie, d'études, de travail. Elle nous condamne à toujours plus de précarité. Notre seule perspective serait ainsi travailler plus, gagner moins et se faire virer plus facilement. L'objet de cette loi, c'est en fait de supprimer le Code du travail comme garantie minimale de protection des droits des salariés. Nous avons ainsi décidé de nous battre pour le retrait sans concession ni négociation de la loi travail.
Loi travail qui a donc été très légèrement modifiée, comme c'était un peu prévu depuis le départ. Une loi qu'on veut faire passer, qui est vraiment, vraiment, vraiment choquante, tellement elle est dégueulasse. On rajoute deux ou trois petits aspects qui vont être les plus énervants et qui va être possible de retirer à un moment, de façon à ce qu'un certain nombre de personnes aient l'impression d'avoir gagné et trouvent que le reste de la loi, c'est quand même moins pire que ce que ça aurait pu être. Et donc là, c'est lundi que Manuel Valls a présenté les modifications. Comme on s'y attendait, une bonne partie des gens du PS qui trouvaient que là, vraiment, leur patron allait trop loin, et certains syndicats, comme typiquement la CFDT ou l'UNSA, trouvent que d'accord, alors maintenant, ça va, c'est correct. Il reste quand même un sacré paquet de saloperies dans cette loi. Alors, qu'est-ce qui a été modifié ou retiré ? Pas grand-chose, finalement. Ce qui a été retiré, c'est les apprentis mineurs, donc ceux qui ont moins de 18 ans. Ils devaient pouvoir travailler jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 40 heures par semaine si le patron décidait. Ça a été retiré. Ils vont rester à 35 heures par semaine, maximum. Alors, il y a une histoire sur le dispositif des forfaits jours, qui ne permet pas de décompter les heures de travail et qui est étendu. Bon, il est toujours étendu, mais différemment. Ça, c'est un truc qui concerne surtout les cadres. Et il faut quand même noter à ce propos que l'employeur ne pourra plus être tenu pour responsable si un ou une salariée ne prend pas ses heures de repos ou ses jours de congé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, votre employeur doit... vous êtes tenu de prendre vos jours de vacances, et autrement, c'est votre employeur qui doit vraiment vous interdire de venir bosser, quoi, si vous tenez à ne pas les prendre. Bon, on peut se dire qu'il y a peu de gens qui tiennent à ne pas prendre leurs jours de vacances, mais on peut aussi se dire qu'une fois que l'employeur est plus responsable du tout de ça et que c'est sous l'entière... Sous le choix complet du salarié, ça offre quand même des sacrées possibilités selon l'ambiance dans la boîte, selon qui sont les gens, etc. Mais en tout cas, des possibilités pour qu'à des moments, des gens choisissent, par exemple, parce qu'ils arrivent en fin d'un CDD et qu'ils veulent avoir plus de chances d'avoir leur CDI ou je sais pas quoi, choisissent de pas prendre leur congé et de rester bosser si le patron met un peu la pression. Donc ça sera possible. La modulation du temps de travail, ça c'est aussi un truc qui a été modifié. Ça va être moins simple, mais ça va être possible quand même qu'on augmente certaines de vos semaines, qu'on en diminue d'autres, et ça peut être, l'élasticité peut aller jusqu'à 3 ans. Le truc qui énervait le plus la CFDT ou l'UNSA, c'était cette histoire de plafonnement des indemnités prud'homales, c'est-à-dire qu'en cas de licenciement illégal, attention, en cas de licenciement illégal, c'est-à-dire vraiment si votre patron vous a licencié pour rien du tout, les prud'hommes peuvent le condamner à vous verser des sortes de dommages et intérêts. La loi prévoyait de plafonner ces dommages et intérêts jusqu'à maximum 15 mois de salaire, alors selon les cas, selon votre ancienneté et tout ça. Finalement, ça a été enlevé et ça sera remplacé par un barème indicatif qui sera fourni au juge des prud'hommes. Tout le reste, ça reste. Et alors tout le reste, je vais même pas tout faire, hein, et puis ouais, ça, on va pas non plus y passer toute la vie, mais tout le reste, c'est une entreprise qui peut baisser les salaires et changer le temps de travail, sous condition d'accord avec les salariés, mais après, les accords avec les salariés peuvent tout à fait être obtenus avec un petit chantage du type soit on fait ça, soit on ferme l'entreprise. La durée de congé en cas de décès d'un proche, ça c'est quand même vraiment le truc complètement dingue qui était de 2 jours jusque-là, ne va plus être garantie par la loi, ça va être le patron qui va décider. Il sera toujours obligé de vous donner un congé, mais il pourra décider que c'est une demi-journée le temps d'aller à l'enterrement. Un proche, c'est ses parents ou enfants, hein, ou conjoints. Il suffit d'un accord d'entreprise pour que les heures supplémentaires soient 5 fois moins majorées. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore ? Une entreprise peut faire un plan social si elle n'a pas de difficultés économiques, mais c'est juste, par exemple, elle a une baisse de commandes pour quelques mois. Toutes les mesures un peu dégueulasses comme ça, elles sont soumises à un référendum des salariés, mais ce référendum peut être pris contre l'avis de même 70% des syndicats. Enfin, cette décision peut être prise. Durée maximale du travail de nuit augmentée. temps partiel, des heures complémentaires qui vont être moins payées. Des horaires qui peuvent être modifiés 3 jours à l'avance pour les temps partiels. C'est-à-dire que vous, si vous êtes en temps partiel, on vous donne des horaires, mais on peut jusqu'à 3 jours à l'avance vous dire « Ah ben non, en fait, vous bossez plutôt tel jour que tel autre jour », ce qui vous empêche quand même, enfin c'est ce qui est quand même assez handicapant pour avoir une vie à côté, quoi. Recours facilité au temps partiel pour les patrons. Congés payés, des changements de date au dernier moment sont rendus possibles jusqu'à maintenant. Le patron, alors je ne me rappelle plus, mais il doit vous avertir, genre un mois à l'avance, il ne peut vraiment plus changer la date des congés qu'il vous a accordés. Bon, bah là, en fait, il peut vous dire la veille, au moment où la voiture est déjà chargée pour aller à la plage, il peut vous dire « Ah ben non, tu peux tout décharger, demain tu viens bosser ». Un petit truc qui est plus directement pour les patrons, mais alors quand même, grâce à cette loi, Pôle emploi pourra prélever directement sur les allocations au chômage la thune qu'il vous aurait versée en trop. C'est-à-dire que ça arrive, c'est un truc qui n'est même pas très rare que Pôle emploi se trompe et vous donne de l'argent auquel vous n'avez pas droit. Jusqu'à maintenant, quand ils s'en rendent compte, ils vous le demandent, ça peut prendre du temps. En tout cas, vous avez une sorte de marge pour voir quand et comment vous allez le rembourser. Bon, bah là, il n'y aura plus de marge du tout. Pôle emploi pourra retirer ça directement de vos allocations au chômage. Je vais peut-être m'arrêter là, hein, des histoires de le repos obligatoire qui pourrait être fractionné, plein d'histoires comme ça. Mais alors, je vais m'arrêter là, sauf pour la dernière. Bien sûr, s'il y a un accord d'entreprise après référendum, etc., un salarié qui dirait « Non, mais moi, ce qui est écrit sur mon contrat de travail, c'est pas ça, et moi, je me tiens à mon contrat de travail », ce salarié pourra très légitimement et sans aucune indemnité être, bien sûr, licencié.
Et maintenant, je vais parler de la grève dans les mines en Chine. Des milliers de mineurs du charbon se battent actuellement pour le paiement des arriérés de salaire. Comme dans la plupart des mouvements sociaux qui agitent l'empire du milieu, les travailleurs de Shuangshan, dans la province du Heilongjiang, nord-est, réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire à l'entreprise qui s'appelle Longmei Mining Holding Group, une compagnie d'État. Et c'est lundi, le gouverneur de la province a expliqué que les autorités locales allaient soutenir financièrement l'entreprise endettée, alors que le secteur du charbon fait face à une chute des prix vertigineuse due donc notamment au ralentissement économique et à la baisse de la consommation énergétique des ménages. Et donc, ce groupe, la Longmei Holding Group, qui a dû, quand même, on peut le préciser au passage, faire des milliers de dollars de bénéfices depuis des années, hein, comme toujours, mais qui sont actuellement en difficulté, avait annoncé en septembre le licenciement de 100 000 personnes en 3 mois, soit 40% de ses effectifs. La Chine est le premier producteur mondial de charbon et le charbon constitue 2/3 de son énergie nationale. Et alors pourquoi il y a eu cette annonce de licenciement de 100 000 personnes ? C'est que la Chine compte fermer plus d'un million de mines de charbon en 2016 et pour entamer sa transition énergétique. Donc c'est dans son plan de transition énergétique. Donc Pékin envisage de réduire sa dépendance au charbon de 500 millions de tonnes dans les 3 à 5 ans. Et cette restructuration devrait entraîner la suppression de 1,3 million d'emplois, accompagnée par la création d'un fonds de 1,4 milliard d'euros pour compenser. Et du coup, c'est dans ce cadre de la restructuration du secteur énergétique, ce que je vous dis, et de la lutte pour la protection de l'environnement. Et eux, ils veulent en plus construire 210 mines modernes répondant à des normes strictes, ainsi que d'hydroélectricité, d'électricité éolienne et solaire. Bref, je vous en parlais pour montrer un bel exemple de lutte pour le climat et que la lutte pour le climat et le capitalisme font très bon ménage.
Allez, on part en Turquie. Alors en réalité, je vais faire très rapidement parce que c'est pas comme si j'avais des grandes infos à annoncer. Mais donc on se rappelle qu'il y a eu cet attentat à Ankara, c'était dimanche, qu'il y a 37 personnes qui sont mortes. Que dans la nuit qui a suivi, le gouvernement turc pensait déjà savoir qui avait commis l'attentat. qui même nominalement, mais du coup quelle organisation aussi, et bien sûr il accusait le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, et il s'est mis dans la foulée à bombarder des positions du PKK dans la partie irakienne du Kurdistan. Voilà, alors bon, on va juste rappeler que le PKK n'a jamais fait d'attentat de ce type-là, c'est jamais attaqué aveuglément à des civils, n'a jamais fait d'attentat à la voiture piégée dans toute son histoire, que là en l'occurrence non seulement le PKK n'a pas revendiqué l'attentat mais il a nié en être à l'origine, et puis qu'une autre possibilité c'est quand même vraiment l'État islamique, que le gouvernement turc a quand même des liens un peu troubles avec l'État islamique, et que cette piste serait peut-être aussi un petit peu intéressante à chercher. Alors le gouvernement turc, le premier ministre Ahmet Davutoğlu et Erdogan ont dit que... Pardon, je me perds. Mais en tout cas, ont accusé les terroristes du PKK et des YPG, qui sont donc les Kurdes syriens, ceux qui, eux, sont tous les jours sur le front contre Daesh. Alors pour l'instant, ils n'ont pas vraiment quand même encore osé aller bombarder les Kurdes syriens, qui sont quand même les seules troupes au sol qui se battent contre Daesh, avec le soutien du coup de la coalition internationale. Mais en fait, ils aimeraient bien, quoi, parce qu'ils sont vraiment paniqués par l'idée que des Kurdes puissent remporter des victoires militaires en Syrie et puissent finir par avoir une zone autonome en Syrie, juste à côté de la Turquie. Voilà, et ben, je vais quand même juste rajouter cette histoire qu'il y a trois universitaires hier qui ont lu en public une déclaration qui appelait à mettre un terme aux opérations militaires dans la partie kurde de la Turquie. Et qu'ils ont immédiatement été arrêtés, ils ont passé la nuit en prison. Il faisait partie de ces 2000 universitaires qui avaient signé une pétition qui demandait à peu près la même chose au mois de janvier.
Et je vais parler de Calais et la suite de la grève de la faim. Pour petit rappel pour les personnes qui n'écoutent pas assidûment le Canu Info, c'est qu'il y a des habitants du bidonville qui sont en grève de la faim depuis le 2 mars contre la destruction de leur zone d'habitation. D'ailleurs, le bidonville continue à être expulsé de jour en jour. Et la semaine dernière, ils se sont cousus les lèvres pour 12 d'entre eux. Pour suivre leur lutte, voilà... un blog en anglais que j'avais déjà dit la semaine dernière, je vous le redis, c'est calaishungerstrike2016blog.wordpress.com pour notamment leur envoyer des messages de soutien. Et donc aujourd'hui à 11h, le Centre d'information juridique et les associations avaient annoncé une conférence de presse dans le bidonville. Et à 10h, une délégation de la préfecture est venue, bien sûr accompagnée de flics, rencontrer les grévistes de la faim. Et pour leur faire arrêter leur mouvement. Et ce qu'ils leur ont proposé, c'est un hébergement immédiat en centre de répit pour ces 12 personnes et un examen accéléré de leur demande d'asile et la garantie de ne pas être renvoyés en Iran. Et c'était une manière pour eux de faire contre-feu à la conférence de presse pour que ça fasse moins de vagues, etc. Et la réponse des grévistes a été unanime, c'est qu'ils ne font pas ça uniquement pour eux, ils le font pour toutes les personnes qui habitent le bidonville. Et donc ils sont contre l'expulsion tout court et donc pour l'arrêt immédiat des expulsions. Et la préfecture leur a répondu que c'était spécial, qu'ils étaient iraniens et que donc ils pouvaient essayer d'accélérer leur dossier. Et du coup, les autres ont répondu qu'il y avait plein d'autres iraniens dans le bidonville, donc ils ne voulaient pas être traités d'une autre manière que tout le monde. Et voilà. Et donc la délégation de la préfecture est repartie. Et donc, c'est des personnes qui continuent à lutter de manière absolument forte, en tout cas, et au prix de leur vie.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation.
Assignation.
Procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Provocation.
Incompétence.
Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Flagrant délit.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane.
des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
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 Donc nous sommes le fil d'Ariane. Et comme annoncé précédemment, on va donc aujourd'hui traiter de la problématique des mineurs isolés étrangers. C'est-à-dire qu'on va tenter de parler de l'évaluation de la minorité, de l'évaluation de l'isolement, de l'accompagnement de cette prise en charge qui existe pour les mineurs isolés étrangers. Et c'est aussi pour ça que donc, nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Françoise ce soir, qui est éducatrice spécialisée en charge de l'évaluation de la minorité et de l'isolement et de l'accompagnement des mineurs dans un département autre que celui du Rhône. Avant d'aborder le vif du sujet, on a pensé qu'il était nécessaire peut-être de revenir à quelques définitions, notamment de la minorité. Alors, on se doute que tout le monde sait que signifie la minorité. Mais donc, il faut quand même savoir que c'est un statut juridique avant tout, qui est donc attaché aux personnes qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Et donc, qu'est-ce qu'un mineur isolé étranger ? Donc c'est une personne qui n'a pas encore 18 ans, c'est une personne qui n'est pas française et c'est une personne qui n'a pas de parents, en tout cas pas de parents proches de lui, qui n'a personne autour de lui sur le territoire français qui aurait une autorité parentale sur lui qui serait capable de protéger cette personne. Vous imaginez bien qu'une des difficultés, c'est non pas de savoir si la personne est française ou étrangère, mais de savoir plutôt si cette personne a 18 ans ou non. Cette problématique n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement sensible en ce moment, et notamment depuis le début de la mandature du président François Hollande, qui, dès 2013, a mis en place un dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. À savoir, il faut savoir que la prise en charge des mineurs isolés étrangers et de la compétence du département. Et ce dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation renforce la mobilisation des services de l'État auprès des départements. Sujet qui est actuel et qui est sensible également, car deux circulaires ont été prises, une en 2013, on l'appelle la circulaire Taubira. Et donc je parle de sujets sensibles parce que c'est dans cette circulaire notamment où il est question des tests osseux pour déterminer la minorité ou non de ces jeunes personnes étrangères et isolées. Et une nouvelle circulaire vient d'être prise en date du 25 janvier 2016. Autant actuel parce que depuis hier est entrée en vigueur une nouvelle loi sur la protection de l'enfant, donc publiée au Journal officiel le 15 mars 2016, qui rappelle le cadre, notamment sur l'évaluation de la minorité des enfants, sur cette prise en charge des mineurs isolés.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc, tout d'abord, on va se poser la question de comment se passe l'arrivée de ces mineurs isolés étrangers, comment se passe donc cette reconnaissance de ces personnes mineures isolées ?
Alors, pour la question de la reconnaissance de la minorité, on va entrer un petit peu dans le détail, parce qu'effectivement, c'est la question centrale, sachant qu'on développera ensuite le fait d'être mineur va entraîner des conséquences juridiques, administratives, sociales, avec une protection spécifique pour les mineurs, et puis aussi des conséquences administratives, donc qu'on vous détaillera. Alors, avant d'aborder cette question en détail de comment est-ce qu'on évalue la minorité, une petite question pour mettre un peu le contexte à notre invité. Déjà, comment est-ce que les personnes arrivent, commissariat, association, comment est-ce que les personnes arrivent, donc elles se signalent pour solliciter une protection, et qu'est-ce qui se passe, donc sans entrer sur la question de comment est-ce qu'on évalue la minorité, qu'est-ce qui se passe immédiatement, quelle prise en charge est offerte dans l'urgence en attendant qu'on puisse du coup déterminer si la personne est mineure ou non.
Alors les jeunes arrivent souvent au commissariat de police ou dans les locaux du conseil départemental. Ces structures appellent notre dispositif. La personne d'astreinte va chercher le jeune et évalue tout de suite la situation sanitaire d'urgence de la personne. Comment il se sent ? Est-ce qu'il est malade ? Souvent les jeunes sont très fatigués et ils ont faim. Donc on accueille aussi leurs états émotionnels, ils sont aussi angoissés, donc on les rassure, on leur explique notre rôle et nos missions, et on les met à l'abri immédiatement, donc dans des structures, donc dans des appartements, en colocation avec d'autres jeunes. On veille à leurs premiers besoins, et si on n'a plus de place, bon, on est obligé de les orienter vers des chambres d'hôtel. Et on leur propose déjà un repos nécessaire et salvateur avant le premier entretien d'évaluation.
Alors justement, s'agissant de cette évaluation, moi je vais commencer par poser un peu le cadre juridique, puis ensuite on va entendre notre invité sur comment tout ça se déroule en pratique, parce que ça pose différentes questions et on va les détailler un petit peu. Alors question, donc, comment est-ce qu'on évalue la minorité ? Alors minorité, effectivement tout le monde connaît la notion, mais sachant qu'ici on parle de personnes a priori étrangères, il faut savoir que la minorité se détermine par rapport au droit français, c'est-à-dire donc moins de 18 ans, puisque d'autres pays ont un autre seuil de majorité. Alors, le droit applicable, et comme pour d'autres points qu'on va développer ensuite, est ici, en fait, le droit commun. C'est-à-dire que c'est le même droit qui s'applique à toutes les personnes, françaises ou non, sur le territoire français. Et c'est donc le code civil qui permet de savoir donc, à quel outil juridique on accorde une importance ou non. Et en l'occurrence, l'article 47 du code civil. Donc là, je vais faire un petit peu de droit, je suis désolée d'avance, mais je vais reprendre.
On est là pour ça.
Mais vraiment du droit pur. On va reprendre un petit peu cet article 47 parce qu'il dit beaucoup de choses, en fait, et il pose les bases de l'évaluation de la minorité ensuite. Donc le principe posé par ce fameux article 47 du Code civil, c'est que tout acte d'État civil, c'est donc principalement acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, tout acte d'État civil fait foi de ce qu'il constate, donc en l'occurrence pour notre sujet de la naissance, la date de naissance, même si ce document est établi à l'étranger, donc, et même pour une personne étrangère. Et donc ça, c'est le principe que pose cet article. Ensuite, l'article va poser des exceptions, donc c'est le sauf de l'article 47, sauf si des éléments au sein même de ce document, donc de l'acte d'état civil, l'acte de naissance en l'occurrence, ou si des éléments extérieurs à l'acte, donc on pense notamment à une personne qui aurait d'autres documents en sa possession, par exemple un extrait d'acte de naissance, un passeport, un document d'identité, donc sauf si d'autres éléments internes à l'acte ou externes à l'acte permettent d'établir, après vérification, et c'est, même si c'est entre virgules, c'est un élément important, j'y reviendrai, permet d'établir que l'acte d'état civil, l'acte de naissance, serait irrégulier ou faux. Donc pour résumer, on a un principe, c'est que l'acte de naissance prouve la date de naissance de la personne, et donc la minorité après calcul, et des exceptions, par exemple, pour mettre un peu de concret dans cette définition, s'il y a des contradictions, donc par exemple un extrait d'acte de naissance qui ne correspond pas à la date de naissance qui figure sur l'acte de naissance, ou alors des incohérences. Un exemple peut-être pour illustrer ce que peut être une incohérence intrinsèque à un acte de naissance, c'est par exemple si la mère qui apparaît sur l'acte de naissance serait née après la date de naissance de l'enfant. Par exemple. Ça, c'est une incohérence qui pourrait être retenue par exception donc, au principe que tout acte d'état civil fait foi donc, est considéré comme authentique. La jurisprudence, donc la position des tribunaux par rapport à cet article du Code civil, il faut savoir qu'elle a pas mal bougé et pas forcément dans le bon sens pour le respect de ce principe donc de présomption de validité d'un acte de naissance établi à l'étranger. Mais quand même, la jurisprudence, les tribunaux rappellent que pour remettre en cause la validité d'un acte de naissance, il faut au minimum que la personne donc, qui conteste cette validité apporte des éléments contraires, suffisamment sérieux, suffisamment probants, et après avoir fait les vérifications pertinentes, sauf si on est sur une irrégularité manifeste, donc par exemple le fait que la mère soit née après l'enfant, là effectivement ça peut suffire en tant que tel, mais sinon il faut que la personne qui allègue que l'acte serait faux apporte des éléments suffisants et fasse des vérifications donc en ce sens et fournisse ces éléments au tribunal en l'occurrence. Donc présomption d'authenticité d'un acte de naissance, mais pas présomption absolue, voilà ce que nous dit le droit avec ses exceptions. Et précisément pour notre sujet, donc les mineurs isolés étrangers, va se poser la difficulté de comment est-ce qu'on apprécie entre ce principe et ces exceptions. Et sachant que pour le contexte un petit peu, en dehors du droit, en pratique, dans certains départements, il y a pu avoir à certaines périodes, alors je ne sais pas actuellement, mais il y a pu avoir à certaines périodes une suspicion de faux sur les documents donc, présentés par ces personnes, notamment pour certaines nationalités, avec notamment ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'apparition du coup pour apporter des éléments extérieurs à l'acte pour contredire la validité de l'acte, l'apparition de ces fameux tests osseux qui ont fait beaucoup parler d'eux dans la presse notamment. Tests osseux, alors pareil, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, mais je vais juste reprendre un peu les éléments là-dessus aussi. Test osseux, c'est un examen médical, médico-légal même, dont le but est de déterminer l'âge de la personne. Concrètement, en France, parce que d'autres pays ne procèdent pas de la même façon sur cet examen médical et vont par exemple regarder la dentition des personnes, mais en France en tout cas, les méthodes qui ont été retenues, c'est surtout des radios du poignet et de la main, voire de la clavicule, et associé à un examen visuel par le médecin des parties génitales, ainsi que de la pilosité de la personne. Et à l'issue de cet examen donc médical et puis de ce, médical donc avec radio et puis examen visuel, des conclusions sur l'âge de la personne, conclusions qui sont destinées à l'administration et puis si ça va plus loin à la justice. Ces tests osseux ont posé plusieurs questions, alors questions juridiques. Et vous avez compris du coup parce qu'on a ici, on entre ici dans l'exception posée à l'article 47 du Code civil. Mais comment est-ce qu'on concilie quand quelqu'un a bien un acte de naissance à produire et qu'on ne conteste pas véritablement l'authenticité de cet acte? Ces tests osseux, ils ont aussi posé des questions éthiques avec la question de la place du médecin. Et je me permets de faire une petite parenthèse pour vous renvoyer à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, un court-métrage qui est très intéressant sur justement les questions éthiques que peuvent poser ces tests osseux, qui s'appelle Aïssa, de Clément Tréhin-Lahan, qui est disponible sur Internet à prix encore et qui, sans mettre trop de mots dessus, révèle assez bien en fait, les problématiques que ça peut poser pour les médecins, ce genre de test et la place du médecin dans ce processus. Tests osseux donc, qui ont aussi posé des questions scientifiques, parce qu'on remet en cause la fiabilité de ces tests. Ce qu'il faut savoir un peu pour le contexte, c'est que les conclusions médicales, à l'issue de l'examen, notamment des radios, reposent en réalité sur un atlas de référence, Grulich et Pyle, un atlas de référence qui a été fait dans les années 30 aux États-Unis sur une population plutôt aisée. Donc, je précise ces éléments parce que ça a une incidence sur la maturité au sens osseux et la corpulence des personnes et puis ben, d'autres signes visuels, on va dire.
Et puis on sait qu'entre 1930 et 2016, il y a quand même l'évolution de l'homme, l'évolution, en fait.
Ouais. C'est la croissance. Ouais. Donc, pas test donc peu fiable, notamment parce que voilà, on est sur cette référence-là et on applique cette référence-là à des personnes du monde entier. Des études également qui s'accordent sur le peu de fiabilité pour dire qu'en fait, au-delà de 15 ans, ces tests ne sont pas fiables. Donc, c'est à peu près le consensus scientifique sur ces tests. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests osseux, quand on les regarde, les conclusions, on a toujours une fourchette qui est donnée par les médecins parce qu'ils ne peuvent pas, bien sûr, déterminer au mois près, au jour près, la date de naissance de quelqu'un. Donc on a toujours une fourchette et sauf qu'on a souvent aussi, pour les cas qui posent problème, une fourchette qui va nous dire, par exemple, bah, il a entre 16 et 20 ans. Ce qui, en fait, ne va pas aider beaucoup à résoudre la question qui est posée à l'administration, voire la justice, de savoir est-ce qu'il est majeur ou pas, parce que 16 et 20, bah, voilà, ça peut être l'un comme l'autre. Alors, sur ces tests osseux, on n'aura pas le temps de développer plus, alors qu'il y aurait beaucoup à dire, mais il y a notamment la CNCDH qui a pris position sur cette question, le défenseur des droits, dont très récemment, et je crois hier, enfin, en tout cas cette semaine, a repris position pour contester ces tests osseux.
Peut-être rappeler juste que c'est la CNCDH.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Oui, je crois. On sait plus si c'est commission ou comité.
La droit de l'homme. Le défenseur des droits également donc, a pris position en rappelant que ces tests étaient, je cite, inefficaces, inadaptés et indignes. Alors, dans le projet de loi, pour le coup, ces tests osseux vont également... leur place a été mise un petit peu à titre vraiment subsidiaire, donc vraiment en dernier recours, mais on y reviendra peut-être ensuite. Alors, pour terminer juste sur cette présentation du droit, la question des tests osseux donc, dans le processus de détermination et d'évaluation de la minorité a également été donc, un débat qui a été porté devant les tribunaux. Devant les tribunaux, à la fois par rapport à la question du droit au séjour des personnes, donc on contestait dans certaines situations la validité des actes d'état civil produits par les personnes, du coup on considère qu'elles sont majeures sur la base des tests osseux et on leur refuse le droit au séjour en France en leur demandant de quitter, donc on a un contentieux qui peut naître de ça devant le tribunal, ou alors, et on y reviendra aussi ensuite, des questions en droit pénal, parce qu'on a pu reprocher au niveau pénal aussi à des personnes d'avoir produit des faux documents d'état civil sur la base des tests osseux. Et ce qu'il faut savoir, alors pour le coup, nous on a plutôt un regard lyonnais, mais en tout cas ce qu'il faut savoir à Lyon, c'est que la tendance aujourd'hui, elle est plutôt à écarter les tests osseux. Et heureusement, vu toutes les critiques dont font l'objet ces tests osseux, donc à Lyon on a plutôt une tendance à écarter, notamment la cour d'appel correctionnelle, et on sait que cette cour d'appel correctionnelle à Lyon, elle n'est pas réputée pour sa clémence, mais néanmoins sur cette thématique-là, elle a pris position de façon assez assez intéressantes. Et notamment, je voulais citer un arrêt d'octobre 2015 de la Cour d'appel de Lyon, qui a reconnu dans une situation, et c'est intéressant pour comprendre le droit, qui a retenu pour une personne dont le test osseux avait établi qu'elle était au-delà de 18 ans, qui avait un acte de naissance qui, pour le coup, avait fait l'objet de vérification, et on a constaté que cet acte de naissance était un faux, mais qui n'avait pas fait l'objet de l'évaluation de la minorité, donc qui va vous être détaillé un petit peu dans quelques secondes. Voilà, cette personne donc, qui avait ces trois éléments-là, on a retenu au bénéfice du doute qu'elle n'était pas, on ne pouvait pas considérer qu'elle était nécessairement majeure, malgré le fait qu'elle avait un acte de naissance donc contrefait, alors même que le test médical disait l'inverse, justement parce qu'elle n'avait pas pu bénéficier de cette évaluation et qu'il existe un principe en droit pénal, c'est que le doute bénéficie à la personne donc accusée, au prévenu, et c'est ce doute-là qu'a appliqué la Cour d'appel en l'espèce. Voilà un peu pour une présentation rapide du droit. Alors après, en pratique, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces textes, la circulaire également de janvier 2016, voilà. Comment en pratique est-ce que cette évaluation de la minorité se déroule ?
Eh bien, après cette fameuse première nuit de sommeil, donc les jeunes sont reçus en entretien par minimum donc par deux personnes en équipe pluridisciplinaire, donc souvent des travailleurs sociaux associés à une psychologue ou une assistante sociale et un éducateur spécialisé. Donc cette évaluation se fait selon la circulaire dite Taubira, avec ce regard sur les jeunes. Donc dit dans la circulaire, les entretiens permettent de recueillir les éléments plaidant en faveur de la minorité, et donc l'inverse. On se rend compte qu'on peut très vite tomber dans l'écueil du soupçon, et que se rappeler cette petite phrase est très important. Donc l'entretien vise la rencontre et la mise en confiance, parce que c'est aussi souvent la première fois que les jeunes vont raconter leur histoire, leur exil. On est les premières personnes à accueillir ça. Donc ce sont des entretiens qui sont très intenses, et on doit avoir ce regard bienveillant. Et éviter encore une fois ce soupçon qui peut être basé notamment sur l'aspect physique, tu en as parlé tout à l'heure, sur la corpulence, parce qu'il est vrai que beaucoup de jeunes nous disent qu'ils ne sont pas allés à l'école et qu'ils travaillaient au champ. Donc on peut facilement imaginer qu'un outil pèse plus lourd qu'un stylo et que le développement physique n'est pas le même. Donc plusieurs entretiens peuvent être proposés. Parce que déjà ce sont des entretiens qui sont fatigants, et ils peuvent être proposés aussi avec des professionnels différents, de manière à croiser les regards et lever les zones d'ombre. Puisque nous travaillons avec, sur la base de cet article 47 du Code civil, nous appelons avec les jeunes dans les pays d'origine pour tenter de leur faire parvenir les originaux de leurs actes de naissance, parce que parfois ils arrivent avec des photocopies et ça peut leur avoir été reproché dans d'autres départements. Donc ils ont été refusés, ils ont eu des refus de prise en charge dans les autres départements. Donc on essaye de travailler de cette manière-là. Après, c'est une pratique qui est difficile. Voilà, moi, je tiens juste à souligner qu'elle se fait vraiment sur la rencontre, sur le détail de la vie dans le pays d'origine, sur la famille, les relations avec les parents. On se rend compte que voilà, il y a plusieurs typologies de raisons de départ. Et là, on peut renvoyer vers la lecture de Madame Étienne Blé, qui est une sociologue qui a écrit un rapport. Très circonstancié sur les motifs de départ. Donc voilà, les jeunes fuient les violences familiales ou les violences politiques. Parfois c'est à cause du décès du père, et la famille n'a plus d'argent pour vivre, donc les jeunes prennent eux-mêmes la décision de partir, avec ou sans l'accord des parents, de la mère. Et on doit aussi accueillir ça, on ne doit pas seulement regarder si le jeune a des poils à la barbe, mais avant tout se rendre aussi à sa disposition pour être à son écoute. Et c'est là où il va pouvoir nous dire beaucoup de choses, parce qu'il ne sait pas forcément ce qu'on attend de lui. Souvent on nous dit, ah ouais, mais est-ce qu'il a un discours stéréotypé, etc. Non, c'est juste qu'ils n'imaginent pas ce qu'on attend d'eux, que certains ne savent pas compter. Donc leur demander quel âge ils avaient lorsque leur père est mort, c'est compliqué, ça demande du temps. Et on essaye de prendre ce temps-là pendant les 5 jours de l'évaluation. Donc pendant ces 5 jours-là, ils sont vraiment mis à l'abri et sécurisés. Et c'est ce qui me paraît le plus important.
Ouais. fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc là, on a vu un peu le parcours du mineur quand, quand il arrive, quand il est évalué. Donc maintenant, on va partir sur la prise en charge du mineur une fois qu'il a été reconnu comme, comme étant mineur. Dans la mesure où, à partir du moment où il, est, où il a été reconnu comme mineur, il a accès au dispositif de la protection de l'enfance. Alors, en ce qui me concerne, je vais surtout parler de la prise en charge sur un plan juridique. En fait, dans la mesure où le fait que le mineur soit isolé nécessite la mise en place d'un cadre juridique particulier, mais on va aussi parler avec notre invité de la prise en charge, entre guillemets, matérielle du mineur, parce qu'il est évident qu'au-delà de la prise en charge juste de son lieu d'hébergement, il faut aussi prévoir tout le reste, la scolarité, la santé, etc. Alors, en ce qui concerne la prise en charge sur un plan juridique, il faut savoir qu'à partir du moment où on reconnaît donc que cette personne qui est de nationalité étrangère est un mineur et qu'il est isolé sur le territoire français, ça a pour conséquence le fait qu'on le considère comme étant en danger. Et donc à ce moment-là, on retombe dans la procédure classique d'assistance éducative, on retombe à nouveau sur le droit commun qui s'applique de la même façon aux mineurs isolés étrangers qu'aux autres mineurs qui se trouvent en France, mais avec quand même quelques particularités. La première particularité, c'est que le mineur, enfin en principe, quand un mineur est pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfant, il est pris en charge par le département où il a été trouvé. Donc ça, c'est le principe, et en principe, il doit rester toujours à la charge de ce département. Mais il faut savoir que les mineurs isolés étrangers peuvent être orientés vers un autre département. Alors là, c'est le dispositif de 2013 dont on a parlé tout à l'heure. Il y a ce dispositif qui a été mis en place pour essayer un peu de répartir les mineurs isolés étrangers sur différents départements et de, quelque part, un peu gérer les flux, hein, c'est malheureux à le dire comme ça, mais c'est une réalité, parce que certains départements étaient confrontés à une arrivée assez massive de mineurs isolés étrangers, et du coup certains départements se plaignaient de devoir supporter une charge trop importante de ces mineurs isolés étrangers, parce que c'est sûr que pour les départements ça a un coût financier en termes de mise en place de différents dispositifs. Donc il y a ce dispositif national qui a été pris en 2013, il y a une circulaire également qui prévoyait un peu des modalités de répartition des mineurs. Circulaire qui a été en partie annulée par le Conseil d'État, notamment parce que le critère de répartition entre guillemets de ces mineurs n'était pas l'intérêt de l'enfant, et le Conseil d'État a rappelé que pour les décisions pour ces mineurs, ce qui devait être pris en compte, c'était leur intérêt. Et donc ce qu'il faut savoir par rapport à cette particularité pour les mineurs isolés étrangers, c'est que la loi dont on a parlé tout à l'heure, qui a été promulguée très récemment et qui vient de rentrer en vigueur, prévoit justement un ajout dans le Code civil à l'article 375-5 du Code civil qui prévoit que justement ça prévoit cette possibilité. Alors, pas précisément pour les mineurs isolés étrangers, mais on sait que c'est pour ces mineurs-là que cette disposition est prise. On prévoit que pour ces mineurs, il peut y avoir une réorientation vers un autre département, mais avec toujours le critère de l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est la première particularité pour les mineurs isolés étrangers par rapport aux autres mineurs qui rentrent dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. La deuxième particularité, c'est par rapport au déroulement de la procédure devant le juge pour enfants. Sur le déroulement classique, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur Enfants et justice et sur la procédure d'assistance éducative. Mais là où c'est particulier pour les mineurs isolés étrangers, c'est que, en règle générale, on a tout de suite la mise en place d'une procédure d'urgence, ce qui n'est pas le cas pour tous les mineurs qui sont en danger. Procédure d'urgence parce que le fait que le mineur soit isolé, évidemment, rend sa situation urgente. Et il se trouve qu'on ne peut pas prendre en charge un enfant sans qu'il y ait, à un moment donné, un cadre, soit une possibilité sur le plan administratif de le faire, soit une possibilité sur le plan judiciaire, sans qu'il y ait de cadre juridique. Or, pour les mineurs isolés étrangers, il y a la possibilité pour le département de prendre en charge sur un plan administratif le mineur pendant 5 jours. Ça, c'est une disposition qui est prévue par le Code de l'action sociale et des familles. Mais au-delà de cet accueil provisoire, il faut bien qu'il y ait une décision qui encadre un petit peu les choses. C'est la raison pour laquelle le procureur de la République, du lieu où le mineur a été trouvé, et qui est saisi en règle générale par le Conseil général, va utiliser une possibilité qui lui est donnée par le Code civil de prendre une décision de placement provisoire de l'enfant en urgence. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'audience, c'est le procureur tout seul dans son bureau qui prend cette décision de placement provisoire, avec quand même un peu des garde-fous, parce qu'il ne faut pas non plus que le procureur prenne des décisions comme ça. C'est que le procureur, une fois qu'il a pris cette décision, doit saisir dans tous les cas, dans les 8 jours, le juge pour enfants. Donc ça veut dire que de toute façon, il y aura une audience devant le juge pour enfants et il y aura une décision du juge pour enfants. Et d'ailleurs, le juge pour enfants doit rendre sa décision dans un délai de 15 jours. Et une décision qui peut modifier les choses, qui peut soit décider de placer définitivement le mineur, enfin de le confier à l'aide sociale à l'enfance, ou alors qui peut aussi revoir la décision du procureur. Alors là, c'est un peu sur le plan procédural et juridique. Concrètement, comment ça se passe au niveau de cette procédure judiciaire, et est-ce que toi, tu es amené justement à accompagner les mineurs dans cette procédure judiciaire ?
Alors oui, donc à l'ouverture du dispositif, ça roulait plutôt pas mal en termes de délai. Maintenant, il y a beaucoup plus d'arrivées, donc on a plus de mal à obtenir des audiences devant le juge des enfants en 15 jours, ou bien des ordonnances de protection du procureur sous les 5 jours. Donc, mais en tout cas, les jeunes restent mis à l'abri le temps de l'évaluation. Et on peut accompagner les jeunes donc devant le juge des enfants si le procureur ne s'est pas saisi parce que, par exemple, le jeune a déjà été évalué dans un autre département, qu'il n'avait pas été pris en charge. Donc, se basant sur la décision du département précédent, le procureur ne se saisit pas. Nous avons donc fait le choix de faire quand même une évaluation de ce jeune, de sa minorité, de son isolement, de recueillir des éléments prouvant éventuellement sa minorité, notamment ses actes d'état civil, et de travailler sur un argumentaire pour ensuite accompagner le jeune devant le juge des enfants. Ça, c'est en cas de difficulté. Et quand on a une ordonnance de protection, il y a un rendez-vous qui est organisé avec le juge des enfants, en effet. C'est un rendez-vous qui est très attendu par les jeunes et qui vient un petit peu les rassurer et leur donner à la fois une assurance qu'ils pourront se poser et en même temps un nouveau départ, quoi.
Et alors, une fois que la décision est prise, que ce soit par le parquet ou par le juge pour enfants, comment ça se passe concrètement pour le mineur ? Ou est-ce parce que, du coup, c'est une décision de placement de l'enfant ? Est-ce qu'il se retrouve en foyer, en famille d'accueil ?
Alors, notre dispositif propose toujours des appartements en colocation. Donc, c'est vraiment le pari de l'autonomie et du logement d'abord. Mais comme on est plein, complet... Il y a certains jeunes qui désormais patientent soit dans des chambres d'hôtel, soit dans les appartements d'urgence pour être réorientés donc dans le département, puisque il y a plus de réorientation nationale, là tout est complet pour l'instant. Et c'est là où il y a des nouvelles problématiques qui se créent un petit peu parce que c'est l'attente qui commence. On est prêt, ils sont dans les starting blocks, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne savent pas où ils vont pouvoir commencer leur projet, aller à l'école, etc. Donc, des nouvelles places vont s'ouvrir, on va pouvoir désengorger un petit peu, et donc soit les orienter dans nos appartements, soit peut-être au niveau national.
Mais donc, c'est parce qu'il n'y a plus de place nulle part qu'il n'y a plus de répartition ?
Oui.
En fait ?
Oui.
Ouais, d'accord. Et les jeunes, quand on les oriente dans un autre département, ils ne sont pas déstabilisés ? Ça les...
Alors, pour certains, ça a été compliqué. Pour d'autres, moins, parce que souvent, c'est la carte de la scolarisation. En tout cas, on leur dit que c'est quand même de cette manière-là qu'ils vont pouvoir se poser, aller à l'école, préparer leur projet et préparer leur entrée dans les critères pour le titre de séjour à 18 ans, parce que c'est la course contre la montre.
Et les jeunes qui ont moins de 16 ans, ils sont aussi orientés vers des structures colocation ?
Oui, mais les moins de 15 ans, par contre, sont orientés en structure foyer de l'enfant, quoi.
D'accord.
comme du coup des mineurs classiques entre guillemets qui passent devant le juge pour enfants, parce que là du coup on a quand même l'impression d'une différence de traitement entre un mineur en danger et français et un mineur isolé étranger, parce que c'est quand même assez rare que des mineurs considérés comme étant en danger en sortant du juge pour enfants se retrouvent dans des appartements en colocation.
Pour une fois, le fait d'être étranger serait plutôt un avantage, ouais.
Ah, c'est vrai.
Ben, en tout cas, pour un ado,
oui, remarque,
être en appart,
la vie en foyer n'est pas forcément bien. C'est vrai que la vie en foyer n'est pas forcément bien.
Bon, à la majorité, c'est un autre truc, mais. Ouais.
Juste rapidement pour finir sur le cadre juridique et pour laisser à nouveau notre invité développer plus la prise en charge matérielle, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Très rapidement, juste pour indiquer qu'au niveau de ces mineurs isolés étrangers, la particularité également sur le plan juridique, c'est que dès lors qu'ils n'ont pas avec eux de représentant légal et qu'un mineur, juridiquement, pour faire un peu vite, il n'a pas de capacité juridique, il ne peut pas prendre de décision pour lui-même, il faut lui désigner un tuteur. Donc il y a aussi une procédure devant le juge des tutelles, c'est le juge d'affaires familiales en matière de tutelle des mineurs qui s'occupe de ça et qui va être saisi généralement par l'aide sociale à l'enfance ou par le juge pour enfants, parce qu'il faut que ce mineur-là ait un représentant, notamment pour s'occuper de toutes les démarches d'inscription scolaire, etc. Et donc on en arrive justement à la question de la prise en charge du mineur, pas sur le plan juridique, mais au plan de la scolarité, de la santé, etc. Comment ça se passe ?
Eh bien, donc les éducateurs référents des jeunes sont là pour tout ce qui est le quotidien. Ils travaillent aussi avec les jeunes leur projet. Il y a un gros travail qui a été fait par notre responsable avec l'éducation nationale pour trouver des places dans les établissements scolaires. Le département a joué le jeu et en tout cas l'éducation nationale a créé des places du P2A pour les jeunes arrivants, allophones et analphabètes.
UP2A, c'est-à-dire ?
Donc ce sont des classes pour les jeunes qui ne parlent pas français, en gros. D'accord. Voilà, et qui ne lisent ni n'écrivent. Donc c'est un travail de partenariat qui a été fait. Au niveau quotidien, pour les signatures par exemple, tout ce qui est documents scolaires, licence de foot, etc., on transmet au département le temps que la tutelle soit mise en place. Et ce sont les référents du département de l'aide sociale à l'enfance qui signent les documents avec qui les référents travaillent au quotidien.
Et comment ça se passe au niveau médical aussi ? Parce que je crois qu'il y a un peu un examen de base qui est fait quand ces mineurs arrivent.
Oui, quand ils arrivent, on les oriente vers une structure de dépistage de la tuberculose et des MST. Je ne vous cache pas qu'on passe aussi beaucoup de temps aux urgences parce que quand ils arrivent et qu'ils commencent un peu à se poser, c'est là aussi où le corps commence à faire mal. Donc les services d'urgence commencent à bien nous connaître, tant mieux. C'est pas pour ça qu'ils ne nous renvoient pas parfois quelques petites piques, on va dire, sur le public, en tout cas. Voilà, mais le partenariat, là aussi, commence à se construire. Et on a un médecin traitant, donc pour ceux qui sont hébergés de manière pérenne, on a fait un partenariat donc avec un médecin traitant qui avait fait sa thèse sur les mineurs isolés étrangers, donc ça a été une aubaine et elle devait en prendre que quelques-uns et elle suit tous les jeunes.
Mmh. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a des problématiques vraiment particulières pour ces jeunes, notamment en termes psychologiques aussi, enfin
oui,
de répercussion de leur parcours.
Tout à fait, répercussion de leur parcours sur le motif de départ, donc on a une psychologue qui est là et qui est à leur écoute, qui sait parfaitement capter leur attention et leur intérêt, d'abord dans les interstices et justement dans les accompagnements à l'hôpital par exemple, pour ensuite créer un lien de confiance et pouvoir faire des entretiens, on va dire, plus thérapeutiques, même si sur le territoire où on est, on manque de psychiatres spécialisés, on va dire, et intéressés par la problématique des MIE, à savoir les stress post-traumatiques, la problématique de l'exil. Tout ça, c'est compliqué.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, avant d'aborder la question de juste avant la majorité, on voulait juste attirer l'attention sur un point qui est Alors, on a parlé tout à l'heure du moment de l'évaluation de la minorité en parlant du phénomène peut-être le majoritaire, c'est-à-dire les personnes viennent d'arriver, elle se présente notamment au commissariat, et puis voilà, il y a une évaluation de la minorité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus-là peut aussi se faire après plusieurs années de résidence sur le territoire français, lorsque la personne va devenir majeure ou vient juste de devenir majeure et va faire valoir ses droits, notamment son droit au séjour. À ce moment-là aussi, il peut y avoir une convocation auprès des services de police. Et ce qu'on conseille de faire, on n'aura pas le temps ici de développer toute cette procédure-là, mais on conseille véritablement aux personnes qui pourraient faire l'objet d'une telle convocation de prendre conseil avant de se présenter à cette convocation par les services de police, prendre conseil individuellement parce que chaque situation est différente et parce que surtout il faut bien connaître les enjeux d'une telle audition et puis ce sur quoi ça peut déboucher ensuite. Deuxième petit élément sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est également les risques. Donc on a parlé du cas où les personnes, après le processus d'évaluation, étaient bien reconnues comme mineures, mais il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui, à l'issue de ce processus d'évaluation, vont être considérées comme n'étant pas mineures. Et de là, il peut y avoir deux incidences qui se cumulent. Tout d'abord, au niveau pénal, il y a une politique pénale en ce moment qui consiste à réprimer, enfin en tout cas à poursuivre en justice les personnes qu'on considère ayant fait valoir un droit, donc la minorité qui n'était pas réelle. Donc il peut y avoir des poursuites au niveau pénal pour notamment les délits de faux et usage de faux, donc faux documents d'état civil, mais également d'escroquerie. Escroquerie, c'est une poursuite pénale faite par le procureur, escroquerie contre le conseil général, où celui-ci, donc département, celui qui offre la protection aux mineurs, le conseil général, dans le cadre de cette procédure, peut se constituer partie civile et demander la réparation des préjudices subis, donc préjudices qui peuvent aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros lorsque la personne, par exemple, a été prise en charge, pendant 2 ans, 3 ans, mineure, et qu'il y a eu un placement en foyer, qu'il y a eu la scolarisation, etc. Autre incidence qui est possible si la personne n'est pas considérée comme mineure, c'est sur le droit au séjour. Une personne mineure ne peut pas être expulsée du territoire français. C'est une règle, il n'y a pas d'exception à ce principe-là. Par contre, à l'inverse, une personne majeure peut être expulsée du territoire français si elle n'a pas les papiers qui justifient de son droit au séjour. Or, vous comprenez immédiatement la problématique pour les personnes qui basculent de doute sur la minorité à « elles ne sont pas mineures ». Immédiatement, l'administration, la préfecture en l'occurrence, peut prendre des décisions de refus de séjour sur le territoire avec obligation de quitter le territoire avec un délai soit sans délai, soit 30 jours pour quitter le territoire et surtout éventuellement la possibilité de prendre un placement en rétention si la personne juste avant ça est en garde à vue par rapport à l'infraction pénale que je viens de mentionner. Donc voilà, juste attirer votre attention sur l'existence de ces risques et là encore, si quelqu'un fait l'objet d'une convocation ou est susceptible d'entrer dans ces deux conséquences, encore une fois, on invite à véritablement prendre conseil.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, juste en quelques minutes, parce qu'on refera une émission plus particulièrement sur les jeunes majeurs, mais et c'est ce que notre invité évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut préparer la suite, puisque, comme on vient de dire, quand on est mineur, on ne peut pas être expulsé du territoire. Par contre, à passer 18 ans, il faut pouvoir justifier d'un droit au séjour. Alors, le code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit deux situations dans lesquelles les personnes peuvent bénéficier d'un titre de séjour. C'est un titre séjour pour les personnes qui ont été prises en charge avant l'âge de 16 ans, qui ont été placées à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, et sous certaines conditions sur lesquelles on reviendra plus en détail la prochaine fois, peut bénéficier d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, ce qui signifie qu'on considère que ses attaches sont principalement en France, et c'est un titre de séjour qui donne droit au travail dans tout type de travail et sur tout le territoire. Il existe également pour les personnes qui ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance après l'âge de 16 ans un titre de séjour, mais qui pour le coup est dans le chapitre admission exceptionnelle au séjour, donc qui est plus compliqué, ce dispositif permet d'obtenir un titre de séjour qui permet l'exercice d'une profession salariée, donc c'est le titre de séjour mention salariée. Là, pareil, c'est sous condition notamment du fait de suivre une formation depuis au moins 6 mois, formation qualifiante, sous réserve aussi des attaches qu'il peut y avoir dans le pays d'origine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attache dans le pays d'origine complètement, mais quelle est la nature de ces liens avec le pays d'origine, donc sous un certain nombre de conditions assez strictes. En tout cas,
Nous, il nous paraissait important d'attirer votre attention sur le fait que donc, ces deux titres existent, qu'éventuellement, mais ça c'est sous d'autres conditions, on peut demander aussi un titre de séjour étudiant, mais c'est quand même la dernière des solutions à envisager. Et qu'en tout cas, c'est vraiment quelque chose à anticiper assez tôt. Enfin, on voit bien du coup, pour le coup, après ce que tu viens de dire, que c'est bien la préoccupation des travailleurs sociaux qui accompagnent les mineurs isolés étrangers, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh. Et même si on a obtenu un titre de séjour, mais que c'est pas celui qu'on avait demandé, il faut aussi parfois aller consulter un avocat ou une association spécialisée pour voir s'il n'y a pas une possibilité de faire quelque chose pour obtenir le bon titre de séjour, parce que la suite, après, pour le renouvellement du titre, enfin pour la suite, ça peut avoir des conséquences aussi.
Ben en fait, on a fini. On aurait eu encore plein de choses à dire, mais...
Oui, c'est un sujet passionnant.
Faut s'arrêter là.
Bon, bah, très bien, parce que...
Bah alors du coup, non, on remercie beaucoup oui. Notre invité d'être venu ce soir.
Ben, merci beaucoup. À vous de m'avoir invité.
C'était, ouais, merci. Cette approche du terrain est riche pour nous tous.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà une idée du thème de votre prochaine intervention ?
Non, on va maintenir le mystère.
Et ben nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 19h.
Bonsoir.
Ciao.
Bonsoir.
Au revoir. Sur les avenues de bitume.